Bonsoir, éphémère.
Waouh. Wow. Retour sur Radio Femme 89.1. Et oui, c'est l'ambiance. Wouh! Eh ouais, ouais. Ce soir, on s'est dit qu'on allait faire un bœuf live, un concert live. Et pourquoi pas? Eh ben, en fait, à ma droite, oui, c'est ça, c'est ma droite. J'ai Jérémy Rolando.
Bonsoir.
Tu comptes aussi, tu regardes?
Oui, ça va, je compte, ouais. Donc, t'es à ma gauche, du coup.
Ouais, ouais, c'est okay. Ça, c'est ça. Je suis à ta gauche. Et Christian Alazar. Alors, tu veux bien nous parler?
Oui, oui, bien sûr, évidemment.
Comment vous allez tous les deux?
À pied. Là, on est...
voilà. Ça commence.
Comme il dit.
C'est l'ambiance. Donc, ben, en fait, je vous ai invités tous les deux pour parler de la sortie du deuxième album que tu vas nous faire.
Oui, alors attends, c'est pas encore la sortie.
Il y a quand même sorti de résidence.
Oui, voilà, c'est voilà. La première résidence. C'est le premier. C'est ça. Premier souffle de la nouvelle création.
Voilà, et comme je t'aime bien, bah, je t'invite à parler toujours
beaucoup,
de ta musique.
C'est très gentil.
Donc ça me plaît. Et on a écouté Quartetto Tafi, la Somos de la Tierra. Pourquoi? Parce que justement, il y a un lien entre Quartetto Tafi, Ludovic et Jérémy. C'est Jean-Luc Anestoy et Serge Lopez, puisque vous les prenez tous les deux dans vos musiques
c'est,
respectives.
C'est ça, ouais.
Vous êtes gourmands, en fait. Vous ne pouvez pas vous en passer d'eux.
Ah, c'est surtout eux qui sont gourmands, parce que j'ai eu deux ans.
Ouais, c'est vrai.
Ah oui,
bien
vu.
Bah oui, c'est ça. Et du coup, bah, comme vous connaissez aussi, parce que Jérémy, tu es allé jouer au bijou avec quoi?
Ils ont eu la gentillesse de m'inviter.
Et ouais, ouais, c'est chouette.
C'était chouette.
Donc là, moi, ce que j'aimerais, c'est qu'on puisse vous écouter avec le bouzouki et la guitare, faire un petit son live, auditeur, auditrice. Vous êtes prêts? On vous écoute, on vous laisse faire.
Bah, on va un peu s'inspirer du morceau qui vient de passer.
Ah,
on va
chouette.
Essayer de faire de la musique jolie.
Ok, on va essayer, oh, j'aime bien ça.
Thank you.
Bravo, bravo, c'était bon, ça fait du bien.
Ça marche trop bien, ces deux instruments ensemble.
Ah ouais, c'est magnifique.
Enfin,
hein,
un duo, Ludo.
Mais Jérémy dit ça sur tous les instruments.
C'est trop beau, ça.
Bouzouki, ça marche. Accordéon, bouzouki, ça marche.
Ouais, batterie, mais c'est parce que c'est un amoureux de la musique oui, aussi. Voilà.
Et du bouzouki.
Non, mais moi, je trouve que c'est un instrument vraiment magique, quand même. C'est, ça scintille, c'est trop joli.
Tu peux nous faire juste réécouter solo le bouzouki pour voir un peu ce que ça fait ?
Ah ouais.
Yeah.
Oh là là.
C'est très beau.
Direct, on voyage, on est parti en Afrique du Nord. Là.
C'est grec comme instrument.
C'est grec en plus.
C'est ça qui est sympa. C'est, qu'en fait,
c'est rigolo ça.
On peut trouver plusieurs tessitures.
Oui, enfin, voilà, c'est
la
ça.
La Méditerranée,
ouais.
L'Afrique du Nord, effectivement, ouais. Direct.
Moi j'entends l'Afrique du Nord direct quand t'as joué. Là, c'était vraiment, j'étais là-bas. Quoi, hein.
Ça donne la mie de tzatziki.
Voilà.
Ça c'est your writer. Alors je répète parce qu'on l'entend pas. Ça donne des envies de tzatziki.
Voilà, il faut.
Ah ouais, vas-y, c'est trop bien.
Ça c'est le bouzirtaki.
Voilà, zardaki. Voilà, ça c'est.
Il y a pas quelqu'un qui peut faire du derviche tourneur en même temps, ce serait pas mal. Vous voulez pas nous refaire un petit truc là avant que tu partes, parce que je sais qu'après tu ouais. As des.
Moi j'ai fait tous les.
Des obligations.
Je connais personne pas d'autres accords par contre. Je veux nous faire ça. Quoi. Non, tu veux faire un truc.
Un petit bœuf. Différent.
Si tu veux.
Ça vous dit. Pardon. Est-ce que tu es ok.
Ouais, toujours. Bien sûr.
Allez, on se refait.
Ok, alors on a fait un truc mineur, on va faire un truc majeur. Quoi.
À bientôt, il y aura de 220 et tout. Ah, je rannonce quand même qu'il y a des places à gagner au 05 61 580 580 avec qui, ben, quoi, t'es tout à fait justement, qui est le 9 février, avec Reverdi, la Reverdi Bambini, qui est le 27 mars, avec Belle Place aussi, on a dit, tant bien que mal. Voilà, ouais, quand même, c'est bien. Avec, du coup, l'événement Mes Poissons d'Avril, dans le spectacle pour jeunes publics. Et avec, du coup, c'est tout. On est bien, là, déjà. Donc, 05 61 580 580. On vous écoute. Un petit 30 secondes.
On fait,
Tu commences et puis tu t'en vas après.
Regarde, rapide.
Ça c'est bon.
Le bœuf le plus rapide de la terre.
5 secondes.
Ouais, il faut qu'il parte.
Donc merci d'avoir pris ce temps, Ludovic, avec merci. Nous. Franchement.
Merci à toi pour l'invitation.
Avec plaisir. Mais vous revenez avec le groupe Ludovic pour une autre session, ça vous dit un de ces jours?
Avec grand plaisir.
Bon, et comme ça, Léo, elle pourra chanter.
Absolument.
Oui.
Ça sera super. Alors, on va juste redire peut-être le site et tout ça, Maë, avant de partir. Comment aller trouver ses places et comment pouvoir venir à ces spectacles?
Alors, on avait dit qu'on parlerait de l'accueil aussi.
Ah, mais oui, c'est vrai, bien.
Et ben justement, si cool. Vous voulez aussi découvrir un lieu convivial, l'idée aussi, c'est que chaque spectacle est accompagné par une buvette. On peut venir, on peut manger, on peut boire un verre et surtout tous les artistes, quels qu'ils soient, d'où ils viennent, après le concert, après la pièce, après voilà, qu'ils aient fait leur projet dans la salle, on se retrouve systématiquement en bas, on mange ensemble, on boit des verres, les artistes échangent avec le public. Donc ça fait aussi partie, vraiment, c'est l'ADN aussi des Mazad et du projet.
Et en plus, ce qu'on peut dire aussi, c'est que dans cet accueil, il y a un endroit où on peut exposer, il y a vraiment un lieu d'accueil.
Ah oui, j'ai pas parlé de ça. Merci Sonia, t'es trop forte.
Je t'en prie.
Il y a aussi un lieu, effectivement, c'est une salle, il y a de la programmation spectacle, mais aussi exposition. On a 9 expositions à peu près par an. Une très belle salle d'exposition qui donne dans le hall et qui fait partie effectivement aussi de ce projet et de cette programmation.
Ouais, c'est super. Et en fait, l'accueil pour annoncer quand même, je vois qu'il y a des gens qui se mettent, je sais pas, vous mettez par cas, peut-être que vous allez partir à la montagne. Je sais pas comment ça se passe. Et du coup, cet accueil, il est génial parce qu'il y a des fauteuils, des canapés, on peut s'installer, on peut rester autant de temps qu'on veut. On n'a pas de limitation pour sortir puisque c'est Maï qui ouvre et qui ferme la porte.
Il y a du vécu,
ouais. Et c'est très convivial et un super bar. C'est comme si on était dans un centre culturel, mais un bar musical aussi, et ça fait du bien de pouvoir profiter de discuter avec les gens après avoir
oui, et puis vraiment l'idée c'était aussi de se dire par rapport à ces structures quand même, parce que le théâtre des Mazarnes, on a nous dans entre nous on parle du vaisseau amiral un peu parce que c'est un grand bâtiment qui est très beau hein, qui est vraiment dans son jus des années 60, ces grandes vitres etc, mais c'est quand même impressionnant, puis c'est une structure, c'est voilà la collectivité, c'est la mairie de Toulouse, donc l'idée c'était aussi que les gens se disent bah je sais pas trop ce que je vais aller voir mais je sais que je vais pouvoir passer un bon moment, boire un verre ou manger, échanger, voir une expo, c'est en accès libre.
C'est ça.
Voilà, de venir aussi pour cet aspect d'accueil et des convivialités, c'était important.
Ah oui, je suis d'accord avec toi. Et puis, il y a les résidences aussi d'artistes qui se font de temps en temps, qui sont quand même super agréables. C'est un beau lieu, il y a une belle salle avec vraiment du bon matériel. C'est de bonnes conditions.
Oui, parce que l'accompagnement, c'est ça aussi, c'est l'aide à la création. Quand je parlais de premier rideau d'accès à la culture, on est aussi un tremplin. Les centres culturels sont vraiment des tremplins pour souvent les compagnies locales qui cherchent à répéter, à créer. Bah, Quarterto, ta fille aussi a passé dans pas mal de salles quand ils sortaient leurs premiers albums ou leurs créations. Ils ont fait des résidences. Ils sont passés dans pas mal de lieux aussi. Des
pour ça, clairement. Merci Maë.
Avec
merci pour tout ça, c'était trop chouette. On va enchaîner avec un morceau de Jérémy Rolando, La Montgolfière.
Et merci à toi Sonia.
Merci. de retour sur Radio. Waouh, je suis en, en freestyle dans un bocal à poisson. Oh, ça faisait très studio là pour le coup.
Ah ouais, carrément. Alors pour expliquer, en fait, il y avait le son à fond dans le studio, donc c'était vraiment une grosse prestance de,
ouais,
de Sonia.
T'as vu, j'avais une voix de ouf là.
Ça le fait, ça le fait.
Ça le fait.
Ça a bien rempli le studio.
Ah, c'était chouette.
On est d'accord. C'est ça, je fais cet effet là moi des fois dans les studios ouais. aussi. Alors du coup, on vient d'écouter quoi ? Ben, on vient d'écouter Montgolfière. Montgolfière, c'est le titre de ton premier album, Jérémy.
Yes. Exactement.
Et c'est un titre, bah c'est ce qu'on disait, c'est un peu comme Quartet Tout à fait tout à l'heure avec le feat avec Leïla Martial, c'est un titre qui dure longtemps, il fait 5 minutes bien tassé.
Et ouais, c'est ça, j'ai pas calculé qu'il fallait que ça passe un temps précis. Quoi. Mais c'est bien, c'est le temps qu'il faut.
C'est le temps qu'il faut. Hein.
Pour raconter l'histoire.
Donc on va faire un petit tour d'horizon quand même sur ce premier album parce qu'il a beaucoup voyagé.
Ouais,
hein, quand même.
C'est chouette en fait parce qu'on a commencé à tourner un an avant de sortir le disque, donc en 2022, et on a fait une quarantaine de dates depuis là.
Quand même.
Maintenant, donc là c'est chouette. Et voilà, c'est sorti en mars dernier. J'ai eu des bons retours. Je suis content. Les gens ont l'air de l'aimer de ce voyage.
Et Christian, donc toi tu accompagnes à chaque fois au son, c'est ça, pendant les concerts ?
Je l'accompagne dans la vie et au son.
Oui, bon.
Alors raconte. Parce que là, lever, tout de suite, pour Boris, passe quoi ?
Lever tout doute, c'est mon beau-père en fait. Voilà.
Oui, parce que là, on pourrait dire, ah, et c'est un nouveau couple qui s'est créé ce soir.
Les jeunes avaient des vieux.
Quoi. Oui,
super. Ça aurait pu ça.
Il n'y a pas d'âge après tout, pourquoi pas ?
On s'aime beaucoup, on s'aime beaucoup.
C'est vrai.
Donc voilà, donc du coup tu les accompagnes, c'est ça, c'est toi qui voilà. leur fais la...
Je les sonorise, effectivement.
Parce qu'ils ont plein de lieux différents et parfois c'est pas toujours évident.
C'est ça, et puis il faut avoir un son, il faut connaître cette musique. Là j'ai la chance de la connaître, vraiment de l'avoir vécue de l'intérieur, l'enregistrement.
Et oui.
Y compris le début de création qui est en train de se faire sur un nouveau projet, de le voir naître par petits bouts de notes, par petites idées, on échange beaucoup pour le plateau, pour la scène, pour le son, pour la lumière. On essaye de créer, de penser à des choses et d'imaginer au vu de ce qui va arriver bientôt dans une salle toulousaine.
On peut en parler quand même.
On peut en parler. Oui, carrément. Bah, c'est vrai que là, le prochain projet, le projet s'appelle Zeph. Donc, c'est le vent, c'est l'argot de Zéphyr.
C'est ça. Donc
moi, c'est vraiment l'argot du côté breton. Hein,
ouais, j'aime bien ça.
Voilà, c'est un vent assez violent en Bretagne. Je sais qu'il y a dans d'autres régions du monde, c'est marrant parce que ça change. C'est un vent doux, c'est le dieu du vent. Tout le monde en parle, en tout cas, du Zéphyr.
C'est vrai.
Et voilà, moi, c'est vraiment le Zeph breton parce que j'ai des origines bretonnes du côté de mon père et polonaise du côté de ma maman. Et le Zéphyr est présent sur les deux
sacré mélange,
deux côtés du monde. Voilà. Et donc, voilà, l'idée, c'était de... Le souffle des origines, en fait. Donc, le vent.
Le vent. Ça tombe très bien, le vent, parce que moi, j'ai envie qu'on écoute un son maintenant, justement, qui s'appelle Les 13 vents.
Ouais, ok. Super.
Et qui est sur le premier album, justement, et qui fait bien la corrélation avec Zeph.
C'est ça. J'avais pas prémédité le truc, mais c'est vrai que ça
avec
fonctionne.
Moi, tu peux pas préméditer.
Alors, les 13 vents, c'est quand même quelque chose de... J'en parle un peu.
Ah oui, vas-y.
Ça vient vraiment de chez moi, de là où je suis né, pour le coup. Moi, je suis né du côté de Verfeil, donc à côté de Toulouse.
Mm-hmm.
Et il y a une maison là-bas qui s'appelle les 13 vents. C'est vraiment le nom de ce lieu. C'est le lieu dit les 13 vents. Et c'est des amis vraiment très proches qui s'appellent Pierre et Nine, que j'embrasse très fort. Et voilà, c'est eux qui m'ont poussé aussi... avec leur gentillesse et leur bienveillance à vous traverser ce chemin dans la musique-là. Et voilà, je les remercie, je leur ai fait ce morceau, c'est pour eux.
Donc dédicace, quoi.
C'est complètement ça.
Et le lieu, ça ne s'appelle pas les 13 vents pour rien. C'est qu'il est en hauteur et il subit tous les vents du sud, d'est, d'ouest, du nord.
Ok.
C'est des endroits très... très secoué.
C'est très venté, du coup, on a l'impression d'être à la mer ou à l'océan sans y être, quoi.
Exact.
En pleine terre. Allez, on écoute les 13 vents. De retour sur Radio Éphémère 89.1, je viens de dire à la percu, j'avais oublié. En effet, il y a un djembé.
Ah oui, mais là, il y a le papa aux percussions, Pascal Orlando.
Mais il fait aussi le djembé, dis donc, Pascal.
Il a un set incroyable.
Oui, mais non, mais c'est un...
Il a d'ailleurs un set avec 8 instruments. C'est là où c'est compliqué.
Ah, ça, c'est bon comme jeu de mots,
ça. Oui, c'est ça qui, déjà, c'est compliqué. Mais ouais, là, pour... Je peux essayer de faire une énumération un peu sommaire de ce qu'il fait, mais...
Vraiment, ça serait intéressant, parce qu'on ne parle jamais de tous les instruments qu'il joue, mais oui, c'est carrément un orchestre.
Oui, alors c'est clair. Alors, il a un djembé africain.
Okay.
Il a des bongos, donc c'est cubain.
Okay.
Il a un tas de trucs accrochés de partout ses cymbales. Il a des pieds de chèvre comme ça. Il a des
coquillages en Afrique du Nord aussi là qu'on.
Les, comment ça s'appelle, les ceintures des danseuses orientales là.
Okay.
Lui, il a mis ça autour de son set. Il a des coquillages, machin. Il a des cymbales, du coup, de batterie. Il a le cajon, du coup, qui est d'origine péruvienne, mais qui, lui, joue depuis que c'est sorti, en fait. Hein, parce que c'est assez jeune, le cajon, en fait.
Ouais.
C'est Paco de Lucía qui avait initié cette histoire-là, en
qu'il
tout cas, dans le flamenco.
En Amérique du Sud, en Espagne.
Et voilà, qu'est-ce qu'il a ? Il a un tombass aussi, qui a un son génial.
Je crois que un shaker au pied.
Ah oui, alors là, à chaque fois, il tue tout le monde avec ça.
C'est assez surprenant.
Tout à fait.
Arriver à tenir un shaker
très
régulièrement, juste avec un pied,
c'est
un peu compliqué.
Et à son autre pied, il a un instrument qu'il a inventé, on peut, entre guillemets, parce que ça s'appelle un woudou. Le woudou, c'est un instrument indien, donc c'est en terre.
D'accord.
Donc terre cuite. Et ça fait un espèce de « doug », comme ça.
Ok. C'est à peu près ça.
Et lui, en fait, il a eu l'idée de mettre deux calebasses. Donc, calebasses, c'est des gros fruits, des grosses pastèques qui viennent d'Afrique.
Mm-hmm.
Il les a collées ensemble et il a mis une ouïe comme le woudou qui est en terre. Et c'est le même principe avec une pédale. Donc, en fait, il a un woudou au pied, donc il fait doum, mais en très grave.
Tu fais bien, le woudou.
Il a c'est vrai, il fait
je
bien.
Je suis entraîné, attends. Spécialement pour ce soir. Et il a son shaker au pied, ce qui fait qu'il a une espèce de feed comme ça qui suit tout ce qu'on fait. Bon, voilà, ça c'est mon papa, il est trop fort.
Ouais, c'est ton papa, quoi.
Ouais.
Et ton papa, d'ailleurs, c'est ce qu'il nous disait la dernière fois, il est super content d'être employé par son fils.
Oula, employé, ouais.
C'est un bien grand mot, tu dis ?
Oui, c'est un bien grand mot. On va dire qu'on a la chance d'aller un peu plus loin dans notre relation père-fils, fils-père. On est aussi ensemble musiciens, on construit de la musique et on se regarde avec des grands yeux quand on est content.
Tu m'étonnes.
Voilà.
On va parler un peu avec Christian parce que Christian, j'ai su que voilà, tu avais un grand parcours de carrière. Alors j'ai eu du mal à trouver des choses sur toi.
Un grand parcours de carrière.
Ouais.
C'est joli ça.
C'est joli, t'as vu. Hein. Non mais je parle bien la France moi. Hein. Je suis une vraie poète en fait. Il paraît que je suis poète dans la vie d'ailleurs.
Oui.
Oui, tu confirmes.
Oui, je confirme.
Ah d'accord, ok, il confirme. Alors, j'ai eu beaucoup de mal à trouver quand même, Christian, des choses sur toi, hein, parce que tu dois pas aimer trop les réseaux sociaux.
C'est vrai. Hein? Il y a un proverbe qui dit « pour vivre heureux ».
Vivant caché.
Voilà.
c'est vrai, tu as raison. Alors, comme tu es caché, du coup, j'ai dû fouiller. Mais quand même, j'ai trouvé quelques petits trucs. Et donc, là, je vois aujourd'hui 54 ans de carrière. Bim.
Bah oui, ça, c'est déjà, ça calme.
Hein. Ça calme.
Mais
quel âge a-t-il ?
Quel âge a-t-il, cet homme ?
Quel âge a-t-il ?
En fait, il est né il y a 54 ans, il a commencé direct.
En 70, bim ! Il est à peine né, sorti de la couche.
J'ai commencé très tôt, en fait. Parce qu'à l'âge de 13 ans, j'étais musicien dans un orchestre de bal. Parce qu'à l'époque, c'était très populaire et ça marchait vraiment bien de faire du bal. Bon, après, ça va très vite. Je vais grandir un peu. Je vais avoir la chance de rentrer au conservatoire en contrebasse. Donc, je vais devenir contrebassiste.
Bel instrument, ça.
Je vais faire du jazz avec quelques élites toulousaines que vous connaissez et d'autres, comme Tonton Salut, Richard Caléja, des gens comme ça à l'époque. On est dans les années 70 quand même. Et plus tard, je vais avoir la chance de travailler dans un cabaret toulousain qui s'appelait L'Écharpe, où il y avait tout un tas d'artistes parisiens qui venaient, des chanteurs, des artistes musiciens, comme Maurice Vander, comme Urtreger, Arvanitas, etc. Donc j'ai eu l'occasion de jouer avec ces gens-là et d'accompagner des chanteurs. Moi, j'étais plutôt issu de la chanson. J'aimais le jazz parce que la contrebasse.
J'aime bien que tu rapproches ton micro parce que voilà. Sinon, tu vas être loin. Tu vas.
Je vais être loin, puis on va pas entendre ma voix grave.
C'est ça, ta belle voix là, de crooner quand même.
Oui, donc voilà. Donc j'ai eu la chance de voir tous ces artistes et d'accompagner tous ces artistes. Et puis va arriver le moment où je vais rentrer au théâtre Jules Julien. Ça, c'est en 1981.
Grande histoire.
Voilà, je vais passer 37 ans dans ce théâtre.
Ah oui.
À être compositeur pour la compagnie du théâtre Réel, qui était à l'époque la compagnie qui dirigeait ce théâtre. Et.
Qui est donc en lien proche avec Jules Julien, c'est ça
Jules Julien, ouais, c'était. J'entendais tout à l'heure parler des Mazades et on était des confrères, en fait, à l'époque déjà.
D'accord.
Avec le théâtre Jules Julien, qui a eu toutes ces grandes années, là, pendant 35 ans, 36 ans, et qui a encore une belle place dans le domaine du théâtre, un peu plus difficile. Enfin, un peu avec une variante, puisque maintenant ce théâtre a été raccroché au Conservatoire d'art dramatique. Mmh. Donc ce sont les jeunes élèves du Conservatoire qui ont la chance d'utiliser ce théâtre. Il y a quand même des programmations, en tout cas que je sache.
Et des collaborations, puisque Marion Dissimo a joué justement il n'y a pas longtemps
chez
eux.
Voilà.
J'y suis allée, et puis de là on rencontre plein de gens. Et figure-toi que j'ai une fille qui veut devenir comédienne, et du coup on est au bon endroit, puisqu'on a rencontré la coordinatrice de programmation du Conservatoire.
Ah ben voilà, ben c'est parfait.
Donc, super lieu. Voilà, déjà.
Et voilà, et alors après, c'est enchaîné une association qui s'appelle Voix du Sud.
Ouais.
Voilà, qui est une école un peu particulière.
Attention, là.
T'as des papiers, alors.
J'ai tout le programme.
Ah, je t'écoute, alors.
Alors, donc, formation Voix du Sud. Donc, ça, est-ce que c'était en lien avec Astafor
C'est ça.
Avec Cabrel, c'est ça
C'est la création de Francis Cabrel et de Richard Seff.
Donc, c'était deux jours de formation, je vois.
Alors, il y avait, au départ, c'était deux jours, c'était deux jours sur la, il y avait la voix, il y avait l'écriture, le texte, bien sûr.
Ok.
Et puis, peu à peu, ça s'est ouvert depuis maintenant plus de 20, on va fêter les 30 ans cette année de Voix du Sud.
Ah, quand même.
Voilà, et j'ai commencé en 1981 à Voix du Sud.
Ce qui veut dire qu'en fait...
En 94,
pardon. Toutes les personnes, parce que, bon, j'en ai entendu parler beaucoup, j'ai une collègue slameuse qui a fait justement... Ah, merci, oui, tu ne me vois pas, c'est ça oui. Une collègue slameuse qui l'a fait justement, cette formation, hein, parce que c'est à Stafford et tout ça. Et du coup, toi, tu es l'accompagnateur en musique et en voix.
Alors,
comment ça
moi,
se passe
je m'occupais principalement, je faisais toutes les résidences, donc les fameux 10 jours des rencontres d'Astafor. Mm-hmm. Et sur ces 10 jours, j'avais principalement un module de voix.
D'accord.
Sur le travail sur la voix. Mm-hmm. Et les arrangements pour le concert qui était à la fin du soir, en première partie de chaque fois d'un artiste connu.
Voilà. Oui. Ok, bah oui, je vois qu'il y a pas mal de modalités d'évaluation, moyens et méthodes pédagogiques, moyens techniques. Il y a quand même 9 salles mobilisables, ordinateur, imprimante, enfin, voilà, tout le système. 7 systèmes de sonorisation complets.
Ah oui, il y a du matériel, il y a tout ce qu'il faut. C'est devenu d'ailleurs le centre des écritures de la chanson française. Donc c'est quand même un label important. Des écoles comme ça, il y en a eu plein. Beaucoup de chanteurs en ont fait. Je vais penser à Michel Fugain qui en a fait,
oui.
Moustaki, puis plein d'autres, j'en oublie, qui ont fait des écoles comme ça. Mais c'était souvent des écoles de formation, c'est-à-dire qu'on venait apprendre à faire des choses. À Voix du Sud, ça s'appelle les rencontres d'Astafor et ça porte bien son nom parce que le but, c'est des rencontres. C'est-à-dire que Francis Cabrel,
oui.
Francis,
bah, c'est un ami hein, maintenant pour toi.
Ah oui, un peu, oui. Et a toujours pensé qu'il y avait des gens qui avaient du talent dans la chanson. Sauf que dans la chanson, quand on en fait, souvent, on a 3 postes. En un seul point, c'est-à-dire on est auteur, on est compositeur, on est interprète par défaut.
Par défaut, tout à fait.
On n'a pas les moyens d'avoir tout ça. Et les rencontres, ça permet de faire venir des gens où nous, après des sélections, on voit qu'il y a peut-être des gens qui sont pas mal en composition, d'autres pas mal en auteur, d'autres qui ont des belles voix. On les met ensemble et ils se débrouillent. On est là quand même pour les encadrer avec un auteur, toujours deux intervenants, auteur-musique. On est là pour encadrer ces gens-là quand même, pour pas qu'ils fassent fausse route. Mais franchement, ce sont des gens qui ont déjà des choses à dire. Voilà.
Et combien de temps ça dure en fait, ce module-là?
Ça dure, alors je dis parce que j'y suis plus depuis 2 ans, j'ai arrêté parce que 27 ans dans la boutique, ça commence à faire quoi.
Ah oui.
Ça dure une dizaine de jours, quoi, à peu près.
Ok.
Une
dizaine de jours. Et ben, cette jeune femme l'a fait, en effet, elle a adoré. Du coup, elle s'est retrouvée à rencontrer des musiciens, des guitaristes comme toi, par exemple, ou d'autres musiciens. Et elle était avec ses textes, donc elle avait déjà ses textes à elle. Et elle avait besoin de cette partie musicale qui lui manquait, et la rythmique aussi.
C'est ça.
Puisque quand on fait des textes, parfois, en tant que chanteur, ça, j'ai découvert ça à musical, par exemple, on sait chanter. On sait faire de la mélodie, mais parfois le rythme, il est à côté. Mmh. Ça peut être à côté, mais ça passe très bien puisque c'est mélodieux. Donc du coup, c'est vraiment les instruments qui font toute la rythmique. Et parfois, il y en a qui n'ont pas du tout cette notion de la rythmique. Et ça aide énormément. Bah, pour le
texte, c'est très compliqué. C'est un peu, enfin, je sais que Jérémy, des fois, pense un petit peu à quelques bouts de texte dans ses musiques. Des fois, ça peut être une phrase ou des onomatopées.
Oui.
Mais effectivement, après, il faut écrire. Là ça demande... C'est un autre travail, hein, l'écriture, parce que l'écriture d'une chanson, c'est compliqué. Tu t'es quand même amusé sur scène à faire des reprises de chansons.
Oui, complètement. Ouais. Moi, j'adore.
C'était
vraiment
chouette.
J'adore. Hein. Et puis, je me rends compte que... Enfin, c'est comme en musique, d'ailleurs. Hein. Je ne sais pas si tu es d'accord avec moi, mais il y a un truc, des fois... Enfin, en tout cas, moi, ce qui me touche... par exemple la chanson d'Hélène, c'est un morceau de Philippe Sard. Que ce soit le texte ou la mélodie ou les accords, c'est d'une simplicité.
Et pourquoi complètement, tu nous ferais pas voir ça?
Génial.
Ah bah ouais,
donc c'est complètement simple et le texte est très simple aussi. Je fais un extrait, mais
ouais, vas-y.
Est-ce que c'est ma tonalité?
Ce soir nous sommes septembre et j'ai fermé ma chambre, le soleil n'y entrera plus, tu ne m'aimes plus.
Tout simplement.
Ouais.
Et en même temps, pour arriver à faire ce tout simplement-là...
Ah oui,
là, il y a des heures. On le sent.
Et oui, parce qu'il y a les pauses, il y a la respiration, il y a l'intention, il y a l'émotion aussi qui est dedans. Et puis, c'est très nostalgique comme texte.
Ah,
c'est,
puis la mélodie est magnifique, le texte est splendide.
Mais les meilleurs tubes
l'actrice
ont souvent été...
L'actrice qui le chante, elle est sublime.
Non, mais tout est beau là-dedans.
Tout
et il y a d'ailleurs, dans Francis Cabrel, on en parle souvent.
Ouais.
La réputation n'est plus à faire. Mais on se dit, c'est dingue, parce qu'il fait quand même de la chanson très poétique avec les mots les plus simples du dictionnaire.
Ah oui,
quoi.
Oui, c'est ça.
C'est juste...
C'est ça qui est important, c'est de dire qu'en fait, c'est pas tant le texte, la manière dont il est écrit, mais c'est tant comment il est interprété, comment il est exprimé, et comment il est vécu.
Comment il est
quoi.
Mis en musique.
Voilà.
Ça, c'est important.
C'est important, en fait. Et la musique vient appuyer sur ces mots simples, ce qui fait que ça lui donne toute sa valeur et toute sa graduation.
Ouais. C'est ce qu'on appelle une chanson, parce qu'en fait, une chanson, c'est une mélodie et un texte.
Oui.
La différence avec le rap, par exemple,
tout
c'était parlé, c'est du texte parlé sur de la musique. Il y a d'autres expériences,
et du rythme.
Ça, des mélanges et du rythme.
Oui.
Voilà. Et après, il y a ce qu'on appelle derrière l'orchestration, c'est-à-dire au-delà d'un instrument, bah, quand il y en a deux, ça s'appelle déjà une orchestration. Quand
ah oui.
Trois, voilà. Dès qu'il y a deux instruments, c'est orchestré.
Ok, déjà avec deux instruments. J'aurais pas cru qu'on pouvait dire orchestration avec deux instruments.
Si, parce qu'un guitare classique, par exemple, vous avez des concertos pour deux guitares.
Ouais, puis ce qui est... bon, là, c'est pas de l'orchestration, mais j'écoutais, je sais plus quelle émission sur France Musique, là, qui était super intéressante, où il parlait de l'harmonie. En fait, l'harmonie... Enfin, en gros, la mélodie et l'harmonie, c'est quelque chose qui est indétachable. Si, par exemple, je joue la même chose que ça.
Vas-y. Hein,
je fais que ça. Ça peut être n'importe quoi en fait. Si je fais.
Je vois.
Ça n'a absolument rien à voir avec.
En effet.
C'est vrai, c'est indétachable.
C'est une masterclass de guitare.
C'est ça, mais ouais, mais c'est génial. Merci Jérémy, vraiment, ça fait du bien de te voir aussi comme ça, tu vois. Tu devrais donner des cours.
Écoute, j'ai pas le temps.
Putain.
Il en donne, mais il est court en temps. C'est ça, son problème.
Mais j'adore Christian, il est très jeune.
Ah oui, oui, il joue avec les mots.
Ah, j'adore. C'est excellent.
C'est la ville de Nougaro, quoi. Il faut jouer avec les mots.
Ben ouais, c'est ça. Sinon, on n'est pas bien parti, quoi. Donc, ben écoute, voilà, il y a cette partie-là, en effet, Voix du Sud, qui a été très importante pour toi. Je vois que tu as été compositeur d'opéra aussi, Oliver Twist, quand même.
Ouais,
Oliver
Twist. Un opéra, ouais,
attention,
c'est
quoi. C'est un chouette opéra en plus, Oliver Twist. Hein.
C'est un 92 ou 93, quelque chose comme ça, effectivement. Okay. Ben c'est d'ailleurs suite à cet opéra que je vais rentrer à Voix du Sud. C'est Richard Seff, producteur, qui était venu voir ou qui avait entendu parler, je ne me rappelle plus trop, de l'opéra et qui avait eu un vrai succès. Et du coup, il a dit à Francis, puisqu'on monte ce projet, je connais quelqu'un à Toulouse qui va s'occuper des voix et qui connaît bien la chanson. Et je suis allé faire ma première intervention en 94, en septembre 94, donc ça va faire bientôt 30 ans, et en me disant que j'allais là faire une prestation et que je ne pensais pas du tout y revenir, et ils m'ont agrafé, ils m'ont ficelé, ils m'ont scotché.
Ils t'ont gardé, quoi.
Et du coup, j'ai fait 27 ans de suite.
Oh, c'est excellent, ça. C'est beau quand même. Bon, tu as été quand même musicien prof aussi, hein, depuis 1970, je vois ça. Ouais. Technicien son studio, c'est un peu ce qui maintenant reste beaucoup dans ta vie. C'est arrangeur, sonorisateur.
Quand j'étais musicien de bal, donc je parle, on est en 1970 quand je commence. Et quelques années plus tard, en 77 par là, j'entre par hasard pour faire des arrangements d'un album d'un guitariste que je connaissais à peine, dans un label toulousain qui s'appelait Baccarat International à l'époque. Et je rentre dans ce label et il se trouve que je suis curieux des consoles, des...
Calus qui est à côté d'elle.
De tout ce qui est son. Et l'ingé son qu'elle a doit partir, rentre chez lui en Bretagne. Enfin bon, bref, je récupère cette place-là. Un peu gonflé parce que je n'y connais pas grand-chose à ce moment-là.
Mais c'est quand on commence, hein, voilà. On débute. Hein.
Je suis jeune, je doute de rien d'ailleurs à ce moment-là. J'y vais. Et c'était l'époque où il y avait, alors je ne sais pas si le public connaît ça, enfin les auditeurs, on appelait ça un dispatch. Alors un dispatch, c'était une espèce de plaque avec peut-être 200 jacks, 200 trous de jacks dans tous les sens.
Ah oui, c'est un peu comme les trucs téléphoniques, quoi.
C'était ça, comme à l'époque du téléphone, exactement.
Okay.
Et il fallait connaître ça par cœur parce que si on ne branchait pas le bon truc au bon endroit, il n'y avait rien qui marchait, c'était une panique noire. Oh, donc j'ai commencé par ça, j'ai commencé à l'époque, il n'y avait pas d'ordinateur. On avait un studio.
Analogique, quoi.
Un studio 16 pistes à l'époque. Et il fallait faire des cabines, des vitres, des bouts de chiffon pour isoler tout le monde. Enfin, mais c'est une très bonne école de prise de son. Et ça ne m'a jamais lâché. Après, j'ai eu mon propre studio. J'ai travaillé au théâtre Jules Julien. J'avais un studio en sous-sol. J'ai toujours eu un studio dans mes mains. Et je sonorisais le théâtre Jules Julien pendant des années aussi.
Donc tous les spectacles, tu sonorisais
tout ce qui venait du théâtre pendant plus de 30 ans, je fais ça.
Et tu composais la musique
je composais la musique donc du théâtre réel où j'ai écrit pas mal de... J'ai écrit aussi pour d'autres compagnies qui passaient là. Je pense à Pierrette Dupoyer, je ne sais pas si tu connais.
Non.
Qui est une très très grande dame du théâtre qui est... Je crois la première femme qui a fait des spectacles à Avignon en soliste,
okay.
Comme ça en one man show, et vraiment une très très grande dame qui tourne dans tous les pays. Et j'ai eu la chance elle est venue dans le studio alors qu'elle passait au théâtre Jules Julien. Elle a écouté mes musiques, elle m'a dit non mais ça je peux le prendre ça et ça je peux le prendre. Et donc ça s'est retrouvé dans deux ou trois spectacles qu'elle a eu. J'étais fier parce que c'est une grande dame. J'étais d'autant plus fier qu'à côté de ces musiques des miennes, dans le même spectacle, il y avait des musiques d'Yvan Cassar. Donc là, ça, tu te dis, ouais, c'est chouette, elle fait des... Ou elle n'a pas d'oreille, ou alors... Non, c'était sympa.
Mais c'est ce genre d'histoire vraiment merveilleuse qu'on peut avoir dans la musique. En fait, il n'y a pas de... Tu ne sais pas pourquoi
mais
tu
oui.
te retrouves à un moment là.
Moi, je trouve que les hasards et les coïncidences, il n'y en a pas, mais dans ces cas-là, à l'hasard. Ça tombe bien. À Lazare. Ça, c'est le Lazare. Le hasard, tout simplement. Et c'est ça qui fait la meilleure chose, quoi. C'est plutôt la surprise du moment, en fait, de l'instant.
C'est ça. Et là, maintenant, c'est un plaisir d'être derrière.
J'imagine.
Enfin, devant, parce que je suis devant et derrière le public.
Oui, voilà. Toi, tu es autour. Enfin,
voilà,
tu fais tout, quoi.
Comme je dis souvent aux gens qui discutent un peu de ça, je dis je suis l'ingénieur du fond.
Pas mal. Ah, j'aime voilà. beaucoup
et
ça.
Et j'adore travailler avec cette équipe.
Et ben justement, j'allais parler de ça parce
énorme,
que.
C'est énorme.
Il y a quand même, moi, ce que je ressens vraiment et ce que j'aime beaucoup avec toi, Jérémy. Bon, nous, on se connaît depuis.
Ah oui, d'ailleurs.
Ouais.
Ça fait un moment, en vrai.
T'avais quel âge? 7 ans, 8 ans.
Ah, quand j'ai sorti mon premier album à 7 ans et demi, et déjà, Sonia m'avait fait une chronique.
Ouais, je les aime tout petits, moi, ils viennent directement.
Non, mais par contre, ça va faire presque, je pense, bientôt 10 ans qu'on s'est vus pour la première fois. Parce que moi, je vais faire 27 ans.
T'avais et
j'ai
16,
commencé
17 ans, quand
à 17 ans, 16-17 ans, ouais. Avec Mélissa, avec Samélie. C'était mon premier truc et j'étais venu là.
Mais c'était avant que je t'ai rencontré à Musical.
Et oui, en plus, alors, tu m'as rencontré à Musical. Donc oui, clairement, ça fait 10 ans.
Ouais, t'avais 15-16 ans. Je me rappelle encore de ta guitare. Et... Oui, mais bon, moi, la guitare, je sais pas. Je sais pas si c'est mon truc et tout. Putain, mais quand tu joues.
J'étais vraiment le troubadour de ce mur de Musical. J'avais tout le temps, j'étais collé à la guitare. Et tous les profs me détestaient, quoi. Alors, c'était compliqué, quand même.
Mais en fait, quand ils jouaient, ils savaient déjà jouer. Donc, ils avaient dit, mais bon, voilà, tu fais quoi?
Non, mais après, ils m'ont appris plein de choses. Et,
oui, quand même.
Et franchement, c'était une très belle expérience. C'est vrai que, ouais, on s'est connus à ce moment-là.
Et ça, on s'est connus à ce moment-là dans des cours de musique. Et je me rappelle que tu savais pas trop si tu voulais faire de la guitare ou pas. C'était ton loisir, quoi.
Et ouais, non, mais j'étais entre la cuisine et la guitare, je savais pas.
Sans loisir.
Encore.
Super comme loisir.
Oui, mais bah c'est un. Bon, c'est peut-être pas le loisir
c'est
le bon
c'est
mot.
C'est le loisir créatif, quoi.
Ouais, je pense que, ouais, bon, en tout cas.
Moi, je t'ai connu juste après avec Teranga, alors, pour le coup.
Oui, ah voilà. Oui, Teranga, bah voilà, j'ai connu Teranga.
J'avais ça avec, quand on s'est connus, j'avais
t'avais pas groupe. Encore, t'étais en train de créer.
Ouais, on était en train de faire ça, on avait fait déjà râler au trio, sauf qu'on a remarqué qu'il y avait un guitariste incroyable qui s'appelle Louis Wingsberg, qui a fait un album. Enfin, moi, je pensais que c'était un album qui s'appelait Raleo.
Ouais.
Je vous conseille d'aller écouter tout de suite de ce pas. C'est très beau, Raleo de Louis Wingsberg. Et en fait, c'est vraiment le nom de son groupe, quoi. Donc, on a changé.
J'imagine,
à 16 ans, t'es là. Ouais, super. Bon, alors le mec, là, il a quand même 35 ans, 40 ans de carrière derrière. C'est un des meilleurs guitaristes français, voire du monde.
Ouais.
Bon, on va peut-être changer de nom, les gars. C'est peut-être mieux.
On va peut-être pas le garder, quand même.
Ouais.
Et est-ce que vous avez une petite anecdote à me donner avant que je te demande de nous faire un live? Parce que vraiment, j'ai envie de t'écouter en live, que tu peux peut-être nous faire un teasing sur un de tes morceaux du prochain album.
Oui,
on ne sait jamais.
Je peux.
Donc, moi, j'aimerais bien que vous me racontiez des anecdotes. Vous devez en avoir tous les deux des anecdotes pendant les concerts, des choses comme ça.
Oh
oui, tiens, il rigole. En plus, je le sens ça.
On en a.
Oui,
c'est sûr qu'on en a. Mais il faut réfléchir. Christian, t'en as. C'est plus intéressant si c'est toi qui dis.
Oui, on en a. Enfin, on en a sur scène, non pas tant que ça, en fait. On est sérieux quand même.
On est super sérieux.
On rigole pas, là. Ouais.
Non,
on est sérieux. Le seul garçon qui est très drôle en dehors de la scène, c'est pas nous. C'est l'accordéoniste qui est très drôle.
Jean-Luc.
Oui, non, mais c'est vrai.
Il a un humour de dingue.
Non, mais quand même, il a toujours le. C'est marrant, oui, parce que il est assez discret, mais c'est un personnage complètement fantastique, en fait, Jean-Luc Amestoy. Il est complètement riche de partout. Il a une tronche incroyable. Enfin, moi, j'adore discuter avec lui quand on
tronche
est en bagnole.
Tronche qui paye pas de mine, où tu dis, mais putain, pourquoi il est là?
Et oui, mais en fait,
c'est un gars phénoménal.
C'est vraiment, déjà, c'est un ange.
Oui.
C'est un mec vraiment ultra gentil, quoi. Très intéressant. Et en plus, c'est vrai que des fois, il nous sort des blagues comme ça, que tu sais pas d'où ça sort. Mais on peut pas les dire, celle-là.
Non,
faut pas les dire. Pourquoi? Bah non, mon anecdote, si vous la finissez pas, c'est pas drôle.
Ça, pas.
Non, mais qu'est-ce qu'on peut dire? Bah que... Si, l'anecdote, ben là, pour le coup, qui nous concerne à tous les deux, c'est qu'on discute énormément. Genre, vraiment, il y a quelque chose de... même jusqu'à l'achat de ma guitare, là, que je viens d'acheter.
Celle-là?
Celle-là.
Ouais. OK.
Donc, il ne fait pas son métier à moitié. Il est allé quand même jusqu'à vraiment aller voir plusieurs guitares et aller jusqu'à essayer avec moi. Moi, je l'avais prise. Il m'a convaincu de prendre cette guitare et je lui ai fait une confiance... une plate confiance, je sais pas si ça se dit, mais voilà, non, après on...
Qu'est-ce qu'elle a de différent, cette guitare?
C'est une guitare classique, qui, ça s'appelle une Antoine Papalardo, donc c'est une génération de quatre générations de lutheries qui étaient des luthiers parisiens, mm-hmm. Là c'est dommage, ils sont tous décédés, là, au moment où j'ai acheté la guitare, deux semaines après, je vais sur le site, pour pouvoir envoyer un message à Antoine Papalardo du coup, et je vois qu'il est parti dans les nuages avant que j'ai pu lui dire merci. Mais ouais, c'est des super guitares.
Non, c'est des instruments très très connus, notamment en classique, parce que ça, c'est l'une des Rolls des guitares classiques.
Mais d'ailleurs, elle a une forme un peu différente.
Elle est très particulière. Alors, on peut faire voir aux auditeurs, vous voyez.
Alors, on est en détresse, on vous explique, hein, parce qu'on ne peut pas malheureusement montrer, mais elle est un peu courbée, elle est un peu incurvée, en fait, très légèrement.
Elle a un peu une tête de violon.
Elle a une tête de violon.
Et donc, l'idée de prendre cette guitare, moi, je jouais sur une guitare qui était d'ailleurs sa guitare, en fait, la guitare de Christian pendant longtemps, j'ai flashé dessus, qui était une guitare classique, mais qui était quand même, je pouvais la typer vraiment flamenca.
Ouais.
Donc, moi, au départ, c'était ça. Mon amour, c'était la guitare flamenca. Et de plus en plus, dans mes compos, j'arrive sur des mélodies plus proche des musiques de films, mais des musiques de films des années 70, des trucs qui sont thèmes très clairs, où il faut du sustain, il faut de la précision, il faut de l'attaque, mais il faut beaucoup de rondeur. La flamenca, elle donne pas vraiment ça, elle donne du rythme, du corps,
complètement,
de la chaleur aussi, mais la classique, elle a ce côté très rond. Je sais pas si on peut l'entendre au micro, mais il y a un sustain qui est très pur. Je ne sais pas si c'est clair comme exemple.
Si, mais on entend bien. En fait, ça résonne vachement et les notes restent longtemps derrière, comme pourrait le faire le piano, par exemple.
C'est exactement. T'as dit le bon truc. Ouais. En fait, ça ressemble plus à... On est plus proche du piano, là, avec cette guitare, que finalement d'une guitare flamenca, ça, c'est sûr.
Et ce qui fait qu'on part en voyage, quoi, directement.
Ouais, puis ce qui est bien, c'est que, du coup, ça tranche un peu avec mon jeu, qui est quand même issu du flamenco, parce que je n'ai pas du tout une école de flamenco. Moi, j'ai écouté les Ritanos de Toulouse, les Franchutes de l'Espagne, quoi. Donc Bernardo Sandoval, qui a joué du flamenco à fond, mais qui est parti dans quelque chose qui est plus aussi de l'ordre de la mélodie, de la chanson. Serge Lopez, qui est, lui, vient de Casablanca, il est bien sûr qu'il est teinté de flamenco. Après, il y a Kiko Ruiz qui a vraiment le son de flamenco. Mais pour moi, c'était tout ça, cette musique qui était le flamenco. Et du coup, j'ai quand même ce truc dans la main droite, c'est évident. Et donc, après plein de discussions avec Christian, on s'est dit, pour quitte à changer de guitare et à changer aussi d'univers sur un nouveau projet, c'était intéressant de trancher, d'avoir un son de guitare très pur, très classique, et en même temps, de le jouer un peu avec l'attaque espagnole de Toulouse.
Et c'est des guitares qui ne sont pas faciles à trouver parce qu'il y en a très peu à la vente. Étant donné que c'est quand même, elles font partie des guitares qui ont un certain prix, pour rester discret.
Ben oui.
Mais là, la chance qu'il a eue, c'est que sur Toulouse, il y en avait une. Donc, il y en avait une autre à Paris, on avait vu, il y avait deux ou trois endroits où on en trouvait, mais il y en a très peu parce que les musiciens qui achètent ce genre d'instrument, c'est à vie, quoi.
C'est génial.
Et puis, il faut un peu l'adresser, cette guitare. Hein. C'est pas,
ah oui, oui.
C'est assez
pour ça que
dur. T'entraînes
beaucoup, du coup, en ce moment.
Obligé, en fait. Parce que je commence à peine à avoir le.
Tu commences à peine à l'apprivoiser, quoi.
La sensation, on se connaît un peu mieux maintenant.
Et si on écoutait ?
Oui, si tu veux.
Tu nous fais un morceau, là.
Je vais essayer, parce que je vais le faire du mieux que je peux, mais le répertoire est frais. En fait, la résidence qui est à la fin du mois, qui malheureusement, pour les auditeurs et auditrices, c'est complet, en fait. Donc
c'est le 1er mars, au Centre culturel Saint-Cyprien, 19h30 ou 20h.
C'est à 19h30.
Bon, après, moi je dis, allez voir quand même, parce que parfois il y a des gens qui viennent, qui réservent.
C'est possible.
Et qui n'ont pas eu le temps de venir ou qui sont tombés malades, enfin, on ne sait pas.
Mais j'ai même envie de dire, en fait, on est là pendant 5 jours, on est là du 26 février au 1er mars. Si vous voulez venir voir le travail en cours, donc c'est vraiment un travail en cours.
C'est possible de venir voir en public et tout ça.
J'insiste là-dessus, là encore ce matin, j'étais en train d'écrire des partitions, j'en suis vraiment à l'étape, bien sûr que j'ai quand même avancé, j'arrête pas de jouer de toute manière dès que je peux, qu'il y a une chaise et que j'ai une guitare, donc il y a des idées. Là, c'est vraiment l'idée, pendant 5 jours, de travailler, j'amène des premières partitions, des premiers jets, On choisit, est-ce que ce sera du piano, est-ce que ce sera de l'accordéon, qu'est-ce qu'on peut faire comme consistance sonore. Moi, je vais ramener aussi une guitare électrique. Guitare folk. Mon père, il va essayer d'amener d'autres choses, d'autres instruments.
Encore
peut-être.
Ben,
pour
7,
remplacer
8,
peut-être les rôles, pour qu'on soit... On était, comme on disait tout à l'heure, il y avait le djembé, le cajon, tout ça, c'est des choses qui vont rester. Mais ça peut être une teinte de musique slave avec des instruments du monde ou aussi des instruments bretons. On va chercher tout ça. Donc voilà, là, j'ai fait ce morceau-là qui s'appelle La Victoria, qui est un hommage au premier bateau qui a fait le tour du monde, qui s'appelle La Victoria, et en plus qui était au début pas du tout parti pour être celui qui allait rester. Enfin, qui allait revenir surtout, parce que là, on est en 1515.
Wow.
Donc, Fernando de Magellan, il sort de Séville et il essaie de trouver un passage, du coup, vraiment au sud, là, vers la Patagonie, au sud de l'Amérique latine.
Okay.
Et là, il déboule Océan Pacifique. Personne n'avait jamais traversé l'océan Pacifique.
Ah mais oui,
Pacifique.
Je crois que j'ai vu un reportage là-dessus.
C'est hyper intéressant, franchement. Ce voyage est dingue. En 1515, c'est...
Je l'ai vu ce reportage. En effet, c'est super...
C'est une énorme prouesse de navigation. Voilà. Et voilà, je lui dédie ce morceau. Donc, ils sont partis à 5 bateaux. Il y en a un qui est revenu. Il s'appelle La Victoria. C'est quand même marrant, le destin.
Oui, clairement. Allez, on écoute Jérémy Rolando en direct live.
Thank you.
Oh là là, j'en ai des frissons.
Bon, j'essaie, c'est frais. Hein. Oh là là.
C'est frais, bah disons c'est frais, c'est léger. Merci. Mais alors déjà, en fait, ce que j'aime avec toi, Jérémy, c'est que à chaque fois, bon, tu le sais, j'ai écrit un texte en
oui,
vous écoutant.
Et oui, on a fait un beau duet.
Pendant, duo, voilà, c'est ça. Et ça m'inspire énormément, cette musique, ces morceaux que tu amènes. Alors, bien sûr, avec toutes ces orchestrations, ça amène vraiment une histoire à chaque fois. Ça raconte quelque chose. Et tu vois, ça m'a inspiré et ça m'inspire encore.
Eh bien, écoute, super. C'est,
donc,
c'est
voilà.
Ça.
On va juste faire un petit focus avec La Mauvaise Réputation. Salut, Michel.
Ouais, ben aujourd'hui, nous, on n'a pas un guitariste comme Jérémy. On a quelqu'un qui jouait il y a un peu longtemps,
ouais,
mais maintenant qui va nous parler de ce qui lui produit comme organisation.
On peut dire
qui c'est. Ah non, on peut dire que c'est Joël Sorin.
Ben
les
voilà.
Gens savent quel groupe c'est.
Ah voilà, yeah, bravo, bonjour Joël.
Quatre cordes seulement.
Ah, quatre cordes. Et oui, c'était de la basse. Et ben voilà, du coup, super. Merci beaucoup à vous deux. Merci Christian Lazare pour nous avoir parlé de tout ton parcours, son composition en musique. Tu reviens quand tu veux avec Jérémy.
Avec grand plaisir.
Franchement, ça me fera plaisir. Jérémy.
Ah ben, merci pour l'invitation. C'était chouette, comme toujours,
ben
avec
ouais.
toi. Et voilà, bon, dommage, le 1er mars, c'est complet. On
ouais.
jouera le 23 mai à la Chapelle des Carmélites.
Tu reviens pour ça?
Ben, si tu veux, avec plaisir.
Bah oui, bien sûr que tu vas
super,
revenir.
On se revoit.
Je te quitte pas, tu le sais.
Allez,
donc,
à très vite alors.
Gros bisous, on enchaîne avec la musique de fin de l'émission. Merci à tous les invités. Merci Christian Lazare, merci Jérémy
merci
Rolando. Merci Maïka Diviel du théâtre, Centre Culturel Théâtre des Mazades. Merci aussi à Ludovic Penny du Quartetto Taffy pour le 9 février qui donc joue, et bien sûr 0561, bah ça on peut plus le dire pourquoi parce que c'est fini, mais par contre on peut retrouver tout sur Facebook, sur Instagram, sur internet, bien sûr à la folie. Nous on se retrouve dans 15 jours encore avec plein de choses, la grainerie, les créatrices, plein de choses. Auditeurs, auditrices, merci de nous avoir écoutés, à bientôt, soyez libres et surtout prenez soin de vous, bisous.